Jeudi 16 janvier, bonjour à tous, bon réveil et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la CGT cherche un second souffle au 43e jour de grève contre la réforme des retraites. Nouvelle mobilisation aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale, d'autres sont prévues la semaine prochaine. Et nous serons au Havre dès le début du journal où la mobilisation des dockers s'amplifie. Les autres titres, Agnès.
La baisse du taux du livret A, 0,5% à partir du 1er février. Emmanuel Macron entend bien se tenir à distance des élections municipales. Le procès en destitution de Donald Trump, il débutera mardi prochain. L'épouvantable bilan carbone du rallye Dakar et puis les tontons flingueurs de retour à Montauban.
Invité de France Inter ce matin à 7h50. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Ali. Le Premier ministre a jugé hier que la grève n'avait que trop duré. Le gouvernement hausse le ton contre les grévistes alors même que le mouvement social reste majoritairement soutenu par les Français. Comment gérer ce paradoxe? La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, fera de la pédagogie à 7h50.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale avec Robert Malley, ancien conseiller de Barack Obama, de Bill Clinton. Il dirige l'International Crisis Group, une ONG spécialisée dans la résolution des conflits. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000, le standard est ouvert, ainsi que sur l'application France Inter.
France Inter. Après 6 semaines de conflit et alors que le mouvement contre la réforme des retraites s'essouffle à la SNCF et à la RATP, la CGT a lancé la bataille des docks avec le blocage des 7 grands ports français au moins jusqu'à demain. À Marseille, les ferries restent à quai, les conteneurs s'entassent à Dunkerque, Rouen, Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux ou encore Le Havre, où vous vous trouvez, Benjamin Hilly, très exactement devant le siège du grand port maritime.
Et d'abord, il y a ce panneau qui annonce la couleur, panneau qui dit port fermé, à l'arrêt, des barrières bloquent les accès au siège du grand port maritime du Havre, les vitres sont taguées, il y a des pneus entassés devant l'entrée, il y a des grillages et ces mots sur les murs, la CGT en force, Macron dégage, le port du Havre est en crise encore après des perturbations déjà en décembre, depuis mardi les bateaux ne peuvent plus venir à quai, impossible de charger, de décharger, les conséquences économiques sont très lourdes. Véronique Lépine, présidente du groupement Havre des armateurs et agents maritimes du port du Havre.
Les ports sont morts, là le port du Havre, il n'y a rien. C'est un désastre. C'est la chronique d'une mort annoncée. On n'a plus de bateaux. On ne peut pas servir nos clients. En décembre, on a eu 25% d'escales de navires au Havre annulées à cause des grèves. C'était 1 million d'euros de droits de port non encaissés pour le port. On est dans une tendance, si on regarde janvier, on est à moins 40% d'escales annulées. Tout d'un coup, on met une ville en péril, on met un port en péril.
Et précisons que les représentants CGT des dockers n'ont pas répondu à nos demandes d'interview. Hier, il y a eu des tensions en marge d'une manifestation devant la Chambre de commerce et d'industrie. Un commissaire de police a eu un doigt arraché après l'explosion d'un pétard. Une nouvelle manifestation est prévue ce matin à 10h dans le centre-ville du Havre.
Merci Benjamin Hilly au Havre ce matin pour France Inter. Du côté des transports, le mouvement donc est en recul. Trafic quasi normal aujourd'hui à la SNCF. L'amélioration se poursuit également dans le métro parisien. Un mouvement qui a coûté plus d'1 milliard d'euros aux deux entreprises, selon Matignon. Ce jeudi est pourtant la 6e journée de mobilisation nationale à l'appel de l'intersyndicale. CGT, FO, CFE-CGC, FSU, Solidaire et 3 organisations de la jeunesse. Intersyndicale qui réunit hier soir entend poursuivre le bras de fer en appelant à de nouvelles journées de manifestation les 22, 23 et surtout vendredi 24 janvier, jour de la présentation du projet de réforme en Conseil des ministres. Des syndicats qui veulent encore y croire. Reportage de Delphine Evenou.
La grève n'a que trop duré, s'agaçait hier Édouard Philippe, le Premier ministre. Haussement d'épaules chez les syndicats.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça?
Cécile Gondard-Lalanne, secrétaire générale de Solidaires.
S'ils croient que les cheminots comme les personnels de la RATP vont arrêter parce qu'il lui suffit de dire qu'il faut qu'ils s'arrêtent parce que ça a que trop duré, je pense que ça va justement renforcer les camarades dans leur détermination.
Retrait du projet et discussion sur la base de nos propositions, martèle l'intersyndicale, qui refuse de parler d'essoufflement. Frédéric Rollet de la FSU représente la fonction publique.
On sait qu'effectivement, le gouvernement joue la montre, essaie de diviser aussi. Mais quand on regarde les professions libérales, quand on regarde la fonction publique, quand on regarde le secteur hospitalier, quand on regarde les étudiants, tout le monde est inquiet. Tout le monde se dit, mais ce projet ne va pas.
Mobilisation rime avec marathon, appuie Catherine Perret de la CGT.
C'est dur, c'est long,
mais nous sommes déterminés, nous sommes les syndicats majoritaires, nous avons les salariés derrière nous et nous avons l'opinion publique et ce gouvernement va céder.
Dans cette guerre d'usure, personne ne veut perdre la bataille de la communication.
Et des défilés sont donc prévus aujourd'hui dans toute la France à Paris. Manifestation cet après-midi entre Montparnasse et Place d'Italie. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement a annoncé hier soir la baisse du taux de rémunération du livret A qui va passer au 1er février de 0,75 à 0,5%. Le choix de la raison, explique Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie espère ainsi inciter les Français à diversifier leurs placements via notamment les nouveaux plans d'épargne retraite.
France Inter, 7h05, la suite du journal. Agnès, les confidences du chef de l'État à 2 mois pile des élections municipales.
Pas question, dit Emmanuel Macron, de parler de vote sanction en cas de mauvais résultat pour La République En Marche. Contrairement aux européennes où le président s'était beaucoup investi, les municipales ont un enjeu purement local. Il l'a redit hier soir lors des vœux à la presse. Yael Gauz.
Fin novembre, c'est lui qui ouvre le congrès des maires, hommage à ces piliers de la République. Certains y ont vu une entrée en campagne. 2 mois après, Emmanuel Macron se tient clairement à distance.
Je ne suis pas candidat au municipal.
Même pas à Paris.
Je suis pas candidat au municipal.
Même pas dans la capitale où les créatures Griveaux et Villani ont échappé aux créateurs. Comme s'il fallait enjamber un scrutin qui s'annonce difficile. Le parti est encore jeune et à géométrie variable dans ses alliances.
C'est des élections locales qui relèvent de dynamiques locales. Et considérer qu'on peut du jour au lendemain rafler les municipales comme on gagne les législatives ou autres est faux parce que l'équation politique n'est pas la même. On parlait du général de Gaulle, on invite à voir ce qui a été les municipales constamment lorsque le président de Gaulle était ici.
Le président qui fait référence au RPF, le parti de Gaulle qui s'écroule aux municipales de 1959. Emmanuel Macron craint-il un vote hostile après une réforme des retraites mal comprise ?
Je ne vais pas considérer que les gens votent pour tel ou tel candidat parce qu'ils soutiennent ou pas le président. Je n'en tirerai pas de manière automatique des conséquences nationales.
Contrairement à d'autres et à un certain François Hollande, frappé en 2014 par la vague bleue et qui change tout son gouvernement.
Dieu merci, on arrive à garder un gouvernement et une stabilité. Quand je me compare, je me console.
Vous avez quand même deux ministres en campagne à Biarritz en même temps quand même.
Monsieur le Président, une dernière question.
J'ai dit que
question.
Je ne m'occupais pas des municipales.
Un peu quand même, un plan de lutte contre le communautarisme, fermeture de Fessenheim, tout ça avant les municipales. De quoi nourrir la campagne des candidats En Marche.
Emmanuel Macron qui présentera aujourd'hui ses vœux aux armées sur la base aérienne d'Orléans dans le Loiret. Après presque 48 heures de garde à vue, le réalisateur Christophe Ruggia sera présenté à la justice ce matin en vue d'une éventuelle mise en examen. Le cinéaste de 55 ans est accusé d'attouchement et de harcèlement sexuel par l'actrice Adèle Haenel.
Direction les États-Unis maintenant où l'on commence à connaître les détails de l'accord commercial conclu avec la Chine.
Un accord qualifié d'historique par Donald Trump. Pékin s'est ainsi engagé à acheter pour 200 milliards de dollars de produits américains supplémentaires au cours des 2 prochaines années afin de réduire le déficit commercial. L'accord comprend également des dispositions pour la protection de la propriété intellectuelle et le transfert des technologies. Un succès pour Donald Trump dont le procès en destitution débutera mardi prochain. Hier soir, la présidente de la Chambre des représentants a envoyé au Sénat les 2 chefs d'accusation qui visent le 45e président des États-Unis. C'est la suite de l'affaire ukrainienne. Si le risque est très faible pour Donald Trump, cela reste évidemment un événement exceptionnel qui s'est joué hier dans les couloirs du Capitole. Grégory Philippe, c'est à Washington pour France Inter.
D'un pas solennel, les 7 représentants démocrates désignés pour être les procureurs dans ce futur procès traversent le Capitole, marchant de la Chambre des représentants jusqu'au Sénat pour y porter les 2 chefs d'accusation qui pèsent sur le 45e président des États-Unis.
Pour l'impeachment trial of Donald John Trump, President of the United States.
The message will be received.
Alors, les sénateurs prennent acte et confirment que ce procès en destitution de Donald Trump s'ouvrira mardi prochain à 13h. Moment historique, disait juste avant la speaker de la Chambre, la démocrate Nancy Pelosi.
C'est un président qui dit qu'il peut faire ce qu'il veut, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit de notre Constitution, il s'agit de sauver notre République. Le président n'est pas au-dessus des lois, il devra rendre des comptes. Il a été mis en accusation, impeached, c'est-à-dire empêché, et ça restera pour toujours. Ils ne pourront jamais effacer cela.
C'est le président de la Cour suprême, le juge John Roberts, qui dirigera ce procès. Le premier magistrat du pays prêtera serment tout à l'heure à la mi-journée, tout comme les 100 sénateurs qui seront amenés à se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence du président. On ne sait pas encore si des témoins seront convoqués, ni combien de temps ce procès va durer. Pas plus de 2 semaines, disait-on hier soir à la Maison-Blanche. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Une femme devrait bientôt devenir présidente de la Grèce, une première dans l'histoire du pays. Ekaterina Sakellaropoulou est l'actuelle présidente du Conseil d'État. Elle devrait être élue par les députés d'ici un mois. Cette femme de 63 ans s'est distinguée dans plusieurs affaires relatives à la protection de l'environnement. L'environnement, tiens, question épineuse. Alors que s'achève le Rallye Dakar, une course particulièrement critiquée cette année parce qu'elle se déroule en Arabie Saoudite, un pays où de nombreux opposants et militants des droits de l'homme sont en prison, mais aussi parce que le rallye a un lourd impact écologique. Bilan dressé par l'envoyé spécial de France Inter en Arabie Saoudite, Guillaume Batin.
Le bilan carbone du Dakar, c'est 40 000 tonnes de CO2, d'après l'ONG française Agir pour l'environnement, 15 500 selon ASO. Des centaines de milliers de litres de carburant brûlés par des véhicules de course surpuissants, sans filtre à particules et leur assistance. Mais aussi des pneus crevés, laissés en plein désert. Des groupes électrogènes par centaines qui tournent 24 heures sur 24 sur le bivouac. Un avion de ligne aux deux rotations quotidiennes pour suivre les concurrents et 10 hélicoptères. Une cantine où le tri des déchets a disparu depuis la dernière édition au Pérou et où sont servis près de 80 000 repas. Rien de choquant ici en Arabie Saoudite, le champion du monde du gaspillage, dont le désert est une véritable décharge à ciel ouvert. Mais ASO promet des changements dès l'an prochain. Yann Le Moener, directeur général d'ASO.
Nous aurons des actions conjointes avec les Saoudiens sur la préservation du désert et sur tous ces sujets de tri qui sont très clairement, oui, à l'ordre du jour. Le Dakar existe depuis de nombreuses années, il a su évoluer avec son temps, il doit continuer cette évolution pour développer des véhicules qui soient beaucoup plus neutres en termes d'impact carbone partout dans le monde.
ASO qui envisage de lancer prochainement de nouvelles catégories, véhicules électriques, hybrides et moteurs à hydrogène. À Arad, Laurent Macchetti, Guillaume Batin, France Inter.
C'était un match en retard de la 15e journée de Ligue 1. Le PSG a dominé Monaco 4-1 hier soir et conforte sa place de leader avec 8 points d'avance sur Marseille.
Et enfin, Agnès, ils sont de retour à Montauban.
Les tontons flingueurs, leur statue précisément installée en hommage au film de Georges Lautner. Deux d'entre elles avaient été volées durant l'été 2018. Les tontons flingueurs et l'incroyable brochette de grande gueule dont Lino Ventura, qui tenait le rôle d'un négociant en machines agricoles à Montauban. Les nouvelles statues ont été installées hier pour le plus grand plaisir des Montalbanais.
C'est fini, oui.
Entre nous, à quoi penses-tu en général?
À Montauban. On ne devrait jamais quitter Montauban.
C'est important qu'ils y soient tous les cinq. C'est la bande Tonton Flingueur, voilà. Donc c'est très bien comme ça. C'est vrai qu'on a des amis dans d'autres régions et quand ils viennent, ils parlent de la Nantaise, ouais. Le bistrot. Les tontons flingueurs, enfin pour eux, ça a du sens tout ça.
Ça a beaucoup de sens, c'est énorme. C'est toute une époque, les années 60, les dialogues d'Audiard.
J'ai pensé au passé à des bons films, de bons acteurs, il n'y en a plus. C'était super bien, on les a revus à la télé récemment. Bon, je trouve que c'est bien.
Ah ouais, on regarde chaque fois. Bon, c'est vrai que les gens de Montauban, ils entendent Montauban, ça dure combien? 2 secondes, hein, ouais.
Il ne faut jamais quitter Montauban.
Ça peut être qu'un plus, oui, mais après, bon.
Pour toutes les générations à venir, c'est pas mal. De garder l'histoire, de garder le souvenir, c'était chez nous. Charles Trenet avait parlé aussi de Montauban. Ça faisait plaisir, tout simplement, d'exister.
Reportage d'Alexandre Berthaud de France Bleu Occitanie. Il ne faut jamais quitter Montauban, Ali.
Jamais. Merci Agnès Soubiran.